Tintico, l'art du café colombien, nous vous faisons voyager dans la cordillère des Andes. On vous propose du café responsable, issu du commerce direct, fraîchement torréfié, bien préparé et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du café en grains pour la maison.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 20 février 2026. À l'occasion de la Journée internationale pour la justice sociale, les groupes communautaires, syndicaux et citoyens mènent diverses actions de visibilité partout au Québec sur le thème « Stop au saccage du filet social, tissé serré pour le réparer ». À Québec, répondant à l'appel à l'action de la Main Rouge, la Coalition Justice climatique et sociale a appelé un rassemblement compté de midi au Parc de l'Amérique française. Cette occasion s'inscrit dans le cadre de la contestation grandissante des mesures d'austérité, des importants reculs en matière de virage environnemental et de ce qui est qualifié d'inquiétante dérive autoritaire du gouvernement de la CAQ. La directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage, Mélanie Marcellet, a rappelé cette semaine dans une lettre ouverte que tous les jeunes peuvent réussir dans leur scolarité si on leur en donne les moyens. Madame Marcellet intervenait dans le cadre des journées de la persévérance scolaire qui sont en cours jusqu'à aujourd'hui. Pour elle, le décrochage scolaire n'est pas un choix, mais bien un symptôme de faille dans un système parfois inadapté, comme la pauvreté, l'exclusion, l'instabilité, le manque de soutien et l'absence de parcours adapté. Le réseau Culture 360, qui regroupe des conseils régionaux de la culture du Québec et dont fait partie Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, partage les préoccupations du Front commun pour les arts et demande à la ministre Sonia Lebel de renoncer aux coupures envisagées dans le programme La culture à l'école et dans les sorties scolaires en milieu culturel. La diminution du financement de ces mesures, qui assure un lien significatif entre les jeunes et la culture québécoise, entraînerait des conséquences jugées catastrophiques sur la vitalité culturelle partout au Québec. Environ 2000 postes sont à combler pour les prochains 40 jours estivaux à la Ville de Québec. Les jeunes intéressés peuvent poser leur candidature sur le site web de la Ville où sont décrites les tâches à accomplir. Par ailleurs, les familles à faible revenu, dont un ou plusieurs enfants participeront à un camp de jour, peuvent être admissibles à une aide financière. Un service d'intégration est aussi offert pour les parents dont les enfants auraient des besoins particuliers lors de la saison des camps de jour. Ce service peut prendre plusieurs formes, dont l'accompagnement à ratio réduit et l'aide ponctuelle. Les parents ont jusqu'au 2 mars 2026 pour déposer une demande auprès d'un organisme. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. De finir la construction de mon logis, désireux de gagner 10 ou 12 $ par quelque activité honnête et plaisante afin de couvrir mes dépenses extraordinaires, j'ai ensemencé pour l'essentiel de l'haricot, mais également sur une petite section de pommes de terre, mais aussi petits pois, navets, 2,5 acres de terre légère et sablonneuse située à proximité de la maison. La parcelle tout entière s'étire sur 11 acres et est pour la plus grande partie boisée de pins et envahie de ronces. Et c'était vendu la saison précédente au prix de 8,08 $ l'acre. Selon un fermier, cette parcelle n'était bonne à rien d'autre qu'abriter des colonies d'écureuils bruyants. Comme je n'en étais pas le propriétaire, mais seulement l'occupant, et que par ailleurs je n'escomptais pas y faire des cultures réellement importantes, je n'y épandis aucun fumier et ne la binai pas intégralement. En la labourant, j'en extirpai plusieurs stères de vieilles souches qui me fournirent de quoi me chauffer pendant une longue période et je laissai quelques petites zones d'humus originelles, facilement repérables tout au long de l'été à la luxuriance supérieure des haricots qui y poussaient. Le bois mort et pour l'essentiel non commercialisable que j'avais derrière ma maison, ainsi que le bois flotté échoué sur les rives de l'étang, me fournirent le reste de mon bois de chauffage. Je dus engager un homme et son attelage pour le labour, même si je me chargeais moi-même de guider la charrue. Pour la première saison, mes dépenses agricoles, outils, semences, main-d'œuvre, s'élevèrent à $14.72 et un demi-cent. Les semences de maïs me furent données gratuitement. Elles ne coûtent de toute façon, pour ainsi dire, jamais rien, sauf si vous en semez trop. Je récoltai 12 boisseaux de haricots et 18 de pommes de terre, en plus d'un peu de petits pois et maïs doux. Le maïs jaune et les navets eurent une croissance trop tardive pour donner quoi que ce soit. Le revenu net de ma ferme fut donc, revenu total $23.44, moins les dépenses $14.72 et un demi-sous, ce qui nous laisse $8.71 et un demi-sous, sans compter la production déjà consommée et la partie en stock au moment où cette estimation fut faite, représentant à L2 $4.50, avec un stock qui faisait donc bien plus que pour compenser le manque à gagner de l'herbe que je ne fis pas pousser. Tout bien considéré, c'est-à-dire comptant ce que vaut l'âme d'un homme et ce que le vaut aujourd'hui, en dépit un peu du peu de temps que je consacrais à cette expérimentation, que dis-je, en partie grâce à la brièveté de mon travail, de mon temps de travail, je crois que je m'en sortis mieux que n'importe quel autre fermier de Concorde cette année-là.
Je m'en glisse dans le brouillard. L'espérance est un mot qui s'exile dans la chair. Chemin souterrain, chemin qui m'emmènera loin. Chemin souterrain.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. C'était le Richard Séguin, la pièce La Chandelle, qui, en fin de compte, il y a deux liens à faire avec cette pièce-là. D'abord, la chandelle, ça me fait penser aussi à la chandeleur dont je vous parle beaucoup ces temps-ci, parce que on le voit tellement avec l'hiver, là, c'est une autre saison d'hiver qui commence avec la chandeleur le 2 février, à partir du 2 février. Techniquement, c'est la fin de l'hiver astronomique, c'est le printemps astronomique qui commence, puis on le voit avec le soleil, puis les belles journées d'hiver, c'est le temps de pratiquer les sports d'hiver. Comme le ski de fond ou la raquette, d'être dehors. Bref, c'est une belle partie de l'hiver, je trouve. Et évidemment, la chanson parle du chemin de fer souterrain qui était c'était symbolique, dans le fond, comme nom. C'est que c'était le chemin pour les esclaves noirs de fuir l'esclavagisme puis de se réfugier au Canada. Et Richard Séguin parle du chemin de fer souterrain sur son album qui parle de taureau, parce que la famille de taureau ils participaient au chemin de fer souterrain. Ils ont hébergé des fugitifs, des esclaves qui fuyaient l'esclavage. Et taureau était très fortement un anti-esclavagiste. Il a beaucoup participé d'ailleurs. Et je pense qu'il a eu un rôle quand même important par ses écrits, par son implication. Et bien, c'est aussi le mois de février, c'est le mois des Noirs. Alors, tout ça est relié. En début d'émission, ben je vous ai lu aussi un extrait, comme à l'habitude, de Walden, d'Henri David Thoreau, qui nous parle de comment il avait financé son entreprise. C'est une expérience qu'il faisait de mode de vie un peu autarcique, qui voulait vivre dans une sorte de liberté, puis en travaillant, il dit qu'en travaillant quelques semaines par année, il pouvait se payer tout ce qu'il avait besoin, puis notamment, bien, son champ de fèves le nourrit, et il lui a rapporté 8 $, qui était une bonne somme d'argent pour l'époque. Et aussi, aujourd'hui, on aura, il y a 2 semaines, Luc Givigneau qui va nous lire un poème. C'est une collaboration qu'on a en toute simplicité avec Croissance Travail. Alors voilà, fait que j'ai, avant d'avoir la lecture de M. Vigneault, peut-être ma revue de presse habituelle. Ah oui, aussi, évidemment, je vous dis que un autre événement plus triste cette semaine, c'est le décès de M. Thomas de Coninck, le philosophe Thomas de Coninck. Et vous parler un peu de Thomas de Coninck aujourd'hui. Et peut-être dans les semaines qui viennent, parce que j'ai pas eu le temps beaucoup de me préparer, mais je pense que c'est une personne importante pour nous, entre autres, au niveau de la simplicité volontaire. Donc, on va parler de Thomas de Coninck aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai quelques lectures dans l'actualité que j'ai retenues. Dans le Devoir de mercredi dernier, une forêt ancienne, en partie détruite par un chemin forestier, Québec a autorisé la construction d'une route pour permettre des coupes industrielles dans un milieu naturel de Mauricie qui pourrait devenir une aire protégée. Face à l'indignation de citoyens de la Mauricie, le gouvernement caquiste a accepté de reporter des coupes prévues dans une petite forêt qualifiée d'écosystème exceptionnel et qui pourrait devenir une aire protégée. Il a toutefois permis à une entreprise de détruire une partie de cet écosystème pour construire un chemin qui lui permet d'aller couper une autre forêt située tout près et qui avait été ciblée pour la création d'une réserve de la biodiversité. La forêt ancienne des Grands Bois est une zone d'à peine 7 km située sur le terrain le territoire de la MRC de Mikinak, au nord-est de Shawinigan. Malgré l'activité forestière industrielle dans la région, cette forêt comprenant des arbres de plus de 200 ans en moyenne, mais aussi des espèces fauniques et floristiques en péril, a toujours été préservée dans le cadre de l'appel à projet lancé en 2024 par le gouvernement pour créer des aires protégées au Québec. Des citoyens ont proposé de protéger cette forêt. Leur proposition, appuyée par les élus locaux, est d'ailleurs soumise à un processus de consultation. Il s'agit d'une étape cruciale en vue de protéger cet écosystème forestier exceptionnel, souligne l'ingénieur forestier Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval. Alors, ce qui est dommage... Encore une fois, c'est que c'est les intérêts économiques qui priment sur d'autres intérêts qui sont aussi importants, sinon plus, parce que des forêts anciennes, des forêts de 200 ans, il n'y en reste plus beaucoup. La majeure partie du territoire québécois a été bûché, peut-être plus qu'une fois même. Et c'est dommage. Alors, on dit... On se donne comme excuse qu'au gouvernement, on dit oui, mais tant que la décision finale n'a pas été prise pour la préservation de la forêt, il n'y a pas de réglementation qui encadre le secteur, donc on peut permettre. C'est un peu hypocrite, je trouve ça dommage. En tout cas, c'était dans le Devoir de mercredi, forêt ancienne, en partie détruite par un chemin forestier. Y a aussi, bien ça c'est pas tout à fait en lien avec notre émission, mais c'est indirect. Je pense que c'est que les médias sont importants, et les médias écrits en particulier. Et on a vu une dénonciation dans les médias cette semaine. Des entreprises de presse écrite dénoncent des coûts de recyclage insoutenables. Un regroupement de quotidiens et de magazines québécois a lancé mardi un cri du cœur demandant au gouvernement du Québec de les exempter de l'obligation de payer les coûts liés au recyclage de leurs publications qu'ils jugent abusifs. Dans une lettre conjointe, 15 entités de presse, dont Le Devoir, le Journal de Montréal, le Globe and Mail, dénonce les effets du nouveau régime de recyclage entré en vigueur le 1er janvier 2025 qui oblige les entreprises à assumer les frais reliés au recyclage de leurs produits. Si les maisons d'édition québécoises ont été exemptées de cette nouvelle disposition, les quotidiens et les magazines, quant à eux, doivent payer de leur poche pour assurer le traitement de leur production en fin de vie. Tout le monde le sait, les médias... C'est des piliers de la démocratie, mais ils sont en difficulté à cause de la concurrence qu'ils subissent avec les médias sociaux qui, en fin de compte, cannibalisent tout le marché de la publicité. Alors, il faut les aider, là, il faut les subventionner. Puis là, ben, on ne peut pas leur imposer des taxes comme ça additionnelles. Il faudrait qu'ils soient exemptés. Alors, c'est dans les médias, il y avait des pleines pages dans les médias écrits là, cette semaine pour dénoncer les frais de recyclage qui leur sont imposés. Autre texte que j'ai retenu dans le Devoir, que j'ai trouvé intéressant, un édifice en bois massif de 9 étages à Toronto. Le plus haut bâtiment résidentiel en bois massif de l'Ontario est en voie d'achèvement. Bientôt, une 60aine d'appartements seront prêts, entourés d'une charpente et de murs exempts de béton et à forte empreinte carbone. De grands panneaux en bois ont été expédiés depuis la côte ouest pour construire le bâtiment de 9 étages à Etobicoke, qui est chauffé et refroidi à l'énergie géothermique. En 2024, le gouvernement de l'Ontario a mis à jour son code du bâtiment afin d'autoriser les bâtisses en bois massif pouvant atteindre 18 étages, ce qui a ouvert un nouveau marché pour les immeubles en bois de grande hauteur. Au Québec, je ne comprends pas qu'on n'a pas encore modifié le code du bâtiment. Et on a presque pas de construction en bois. En Ontario, ils sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus. Ils ont modifié le code du bâtiment. Et je regarde il y a certains édifices, dont les bibliothèques, qui sont tellement plus chaleureuses lorsque c'est en bois. Je pense à la grande bibliothèque à Montréal qui est toute en béton, c'est assez froid, c'est rébarbatif, alors qu'on peut construire en bois, c'est efficace et on a un problème, le bois aux États-Unis, on a des tarifs qui sont imposés sur le bois. L'industrie forestière a de la difficulté à vendre son bois aux États-Unis, mais on pourrait construire en bois. Alors, je souligne cet article-là. C'était dans le Devoir de lundi dernier. Un édifice en bois massif de 9 étages à Toronto. Dernier texte dans le Devoir. Premier centre commercial de seconde main pourrait voir le jour à Saint-Jérôme. Imaginez un centre commercial qui ne vend rien de neuf, mais uniquement des articles d'occasion et recyclés. Tricentris s'apprête à mettre sur pied, au Québec, à Saint-Jérôme, un projet inédit, inspiré d'un modèle suédois. Face à la hausse du coût de la vie, l'initiative vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages tout en les incitant à adopter une consommation plus durable et responsable. Il faudrait sortir de ce cycle de surconsommation où on achète trop puis on jette. On aimerait que le réflexe du seconde main devienne la première option et non une simple alternative. Laisse tomber Danny Dumont, directeur général de Tricentris, la coop, un des plus grands centres de tri du Québec. Le concept est simple. Rassembler sous le même toit de 20 à 25 commerces entièrement voués au réemploi, vêtements, souliers, meubles, jouets, appareils électroniques. Dans ce nouveau centre commercial, on trouvera tout ce qu'on peut acheter dans un centre d'achat traditionnel, sauf que tout aura déjà été utilisé, réparé ou revalorisé. L'organisation souhaite également privilégier les entreprises d'économie sociale. En tout cas, vraiment un projet intéressant. Je vais y revenir sur le réemploi parce que le comité Simplicité volontaire est en train d'organiser un événement, un cercle de discussion sur le sujet du réemploi à la ressourcerie Nos Choses qui est dans mon camp sur la rue Père-Marquette. Alors ça, on va y revenir là-dessus. Alors, premier centre commercial de seconde main pourrait voir le jour à Saint-Jérôme. Alors, on va passer maintenant à notre chronique poésie avec M. Vigneault. Alors, voilà. Allez-y, M. Vigneault.
Souvenir du grand Saint-Laurent. Longeant le long et grand fleuve Saint-Laurent sur le rivage nord de l'île d'Orléans, il me revient des souvenirs de mon jeune temps, de l'époque où j'étais un adolescent. Il n'était pas encore question dans le temps de penser protection de l'environnement. La vie des poissons ne tient qu'à un filament depuis le temps de nos arrière-grands-parents. Alors que sous les étoiles du firmament, nous étions réunis autour d'un feu de camp au bord de l'eau, on y jetait insouciamment un pneu usé, sans être tout à fait conscient que l'on y créait des dommages permanents dans l'air en polluant et en empoisonnant notre avenir, sans regarder plus en avant et prévenir ce qui arrive maintenant. Quand j'y repense, j'aimerais donc tellement renager dans les eaux pures du Saint-Laurent face à la rive nord de l'île d'Orléans. Or, pour revoir cela, vivrai-je assez longtemps?
Understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I have done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard.
Alors, c'était Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Toujours petit clin d'œil pour le mois des Noirs. Nina Simone, c'est une grande chanteuse afro-américaine. Alors, voilà, on continue à souligner le mois des Noirs. Avant de parler de M. de Conin, que j'ai d'autres lectures que j'ai faites cette semaine. Présentement, en kiosque, il y a un numéro, le dernier numéro de Cerveau et Psycho. C'est un numéro sur le bruit. Quel impact sur notre cerveau? Ça aussi, c'est une forme de pollution qu'on ne parle pas beaucoup. On est tellement entouré de toutes sortes de pollutions, dont... malheureusement, le problème des émissions de gaz à effet de serre pour les changements climatiques. On parle beaucoup des changements climatiques, mais il y a d'autres pollutions dont on parle moins, mais qui sont aussi néfastes. Puis on parle comment on est entouré de bruit, puis c'est néfaste pour le cerveau. Alors, c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le dernier cerveau et psycho. Et aussi, il y a un autre article que j'ai trouvé intéressant dans ce magazine. Et c'est sur le cerveau, Mon cerveau et moi, la chronique Mon cerveau et moi. Courir, jardiner, tricoter, est-ce méditer? Il y a comme un mythe qui dit, ben moi, j'ai pas besoin de méditer, je jardine ou je tricote, etc. Puis il nous dit, ben courir, c'est ça, il y a comme un malentendu. Courir, c'est ma manière à moi de méditer. D'autres disent se recentrer en jardinant, en sculptant ou en coloriant. Mais peut-on réellement faire ce rapprochement? C'est un texte de M. Jean-Philippe Lachaud. Moi, ma méditation, c'est de jardiner. Je cours pour me vider la tête. C'est comme une méditation. Depuis longtemps, j'entends ce type de remarques et je m'étais promis de rédiger un jour une note pour mettre les choses au point, histoire de rappeler que la méditation est une pratique bien particulière et également pour corriger un fréquent contresens. Non, vous ne méditez pas dès que vous vous mettez à courir, à coudre ou à jardiner, ce qui n'empêche pas que ces activités de rester très bénéfiques à votre bien-être mental, à condition de ne pas les prendre pour ce qu'elles ne sont pas. La méditation est une pratique à part entière dont le principe est certes simple, mais la maîtrise difficile. Son apprentissage peut être comparé à celui du chant. Une personne qui apprend à chanter passe beaucoup de temps à ajuster son souffle pour atteindre les notes souhaitées. L'apprenti méditant est engagé dans une démarche similaire, à ceci près que ce n'est plus l'air ni les résonances de son corps qu'il manipule, mais sa propre attention. L'effet qu'il observe ne se manifeste pas sur le son qu'il produit, mais sur l'expérience consciente de l'instant qu'il est en train de vivre et qui dépend étroitement de la manière dont son attention est orientée. En la dirigeant, par exemple, vers les sons de la pièce, l'apprenti méditant constate qu'ils deviennent soudain plus présents. S'il oriente son attention vers le bruit de son souffle, celui-ci, peu à peu, peut couvrir le flot incessant de sa petite voix intérieure. Au fil de la pratique, l'apprenti méditant remarque qu'il peut aussi s'extraire de ses ruminations mentales lorsqu'il parvient à stabiliser son attention sur certaines sensations physiques comme celles du bas du corps. Alors, peut-on méditer en jardinant, en faisant sa vaisselle, voire son footing? Pas si vite. Dans la méditation, la découverte et la maîtrise des mouvements de l'esprit reposent une capacité appelée méta-attention, la capacité à porter son attention sur sa propre attention. Le méditant apprend, par exemple, à repérer les moments où celle-ci dérive de son objet initial, la respiration par exemple, et à l'y ramener doucement. Or, quand on court, cuisine ou peint, il est très rare qu'on déploie cette méta-attention. Alors, c'est une nuance importante. La méditation, c'est une activité en soi, c'est une pratique en soi. On peut atteindre, on pourrait dire, une sorte d'état méditatif par le jardinage, par exemple, ou quand on est concentré sur ce qu'on fait, mais c'est pas tout à fait la même chose que la méditation. Alors, c'est dans le numéro cerveau et psycho qui est en kiosque, dans les kiosques à journaux présentement. J'ai un autre texte aussi que je veux vous lire. Là, c'est un texte qui est plus ancien. C'est le numéro de l'an dernier, avril-juin, de l'écologiste sur les insectes, plaidoyer pour les insectes. Autre chose aussi qu'on oublie, là, la perte de biodiversité actuelle, notamment au niveau des insectes. L'effet combiné de la destruction des habitats naturels, de l'intensification de l'agriculture avec un usage massif de pesticides, des espèces invasives et du réchauffement climatique conduit non à une baisse, mais à un effondrement à peine croyable des populations d'insectes. Les chiffres qui circulent sont affolants. En Europe occidentale, la population d'insectes se serait effondrée de plus de 75 % entre 1989 et 2016, d'après une célèbre étude portant sur les espaces naturels protégés. Peut-on en conclure que l'effondrement général des populations d'insectes en Europe occidentale atteint 99 % entre aujourd'hui, atteignent 99 % entre aujourd'hui et l'apparition des pesticides minéraux vers 1900. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une accélération considérable du déclin de ces populations à partir du moment où l'on a utilisé les insecticides de synthèse infiniment plus puissants que leurs devanciers, avec notamment les tristement célèbres néocotinoïdes. On en entend beaucoup parler, entre autres, l'agronome là, québécois, j'oublie le nom, là, qui a écrit un livre là, qui était, en tout cas, il aurait mis en question beaucoup les pratiques qu'on a au Québec, qu'on étend beaucoup trop de pesticides. En outre, les quantités de pesticides épandues ou distribuées par enrobage des graines ont augmenté. La formulation par enrobage des graines est particulièrement pernicieuse car elle rend la plante plus... elle rend la plante ou les plantes voisines contaminées, toxiques de manière systémique, y compris pour la pollinisation. Puis ça, c'est mondial, l'effondrement des insectes, et c'est mondial. Alors, c'est un dossier à suivre. Ce numéro-là de l'écologiste, il est peut-être trouvable dans les bibliothèques. C'est un bon numéro sur les insectes. C'est le numéro 61 de l'écologiste qui est sorti l'an dernier. Dernière petite lecture que j'ai retenue, c'est le numéro spécial de Philosophie Magazine qui est en kiosque présentement. Il y a plusieurs bons articles. C'est un numéro spécial qui s'appelle « Les idées de demain 2026 ». Il y a un texte, entre autres, que j'ai trouvé intéressant. Le premier texte, là, Naomi Klein et Astra Taylor, c'est deux... c'est une journaliste, elle, Astra Taylor, c'est une sociologue, puis Naomi Klein, c'est une essayiste connue, tous les deux très impliqués, on pourrait dire activistes. Alors, pourquoi les rêvent-ils d'apocalypse? L'imaginaire de la fin du monde est le carburant des extrêmes droites contemporaines. Les essayistes canadiennes Naomi Klein et Astra Taylor montrent comment ils justifient les pires logiques d'exclusion comme l'abandon de la Terre et l'effondrement climatique. Si nous voulons être à l'auteur du moment critique de l'histoire que nous traversons, nous devons admettre cette irréalité. Nous faisons face à des adversaires comme nous n'en avons jamais connus. Nous affrontons le fascisme de la fin des temps. Alors, c'est un texte, un bon texte. Je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, parce que je voudrais parler un peu de M. De Koninck. Il y a aussi, à la fin, une section sur l'écologie que j'ai trouvé intéressant. Il y a un texte, entre autres, sur l'habitabilité. C'est un texte de Baptiste Morisseau et Laurent Neyet. N'étant pas bâti sur des valeurs cardinales écologiques, nos vieux systèmes juridiques sont incapables de protéger efficacement les écosystèmes. Comment sortir de ce plafonnement du droit de l'environnement? Certains essaient de faire bouger les choses par l'extension de la personnalité à des entités naturelles comme les rivières, d'autres par le renouvellement de la propriété, la reconnaissance de biens communs environnementaux. Plutôt que d'ajouter de nouvelles formes juridiques qui se heurtent souvent aux limitations des législations, il faut refonder nos systèmes juridique, défi Morisseau et Neyet dans le principe de l'habitabilité. Revue européenne du droit publiée par le groupe d'études géopolitiques. Placée à leur racine, aux côtés d'autres grands principes, celui de la protection de l'habitabilité. L'habitabilité, c'est la propriété de tout milieu à toute échelle spatio-temporelle dans laquelle les conditions de santé et de prospérité de chacune des formes de vie sont produites par l'activité interdépendante de la diversité des formes de vie. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est un numéro spécial Philosophie Magazine, Les idées de demain, qui est en kiosque présentement. Alors, prends une petite pause musicale, puis au retour, on va parler un peu de Thomas de Koning. C'était Nathalie Choquette. La pièce s'intitule « Vocalise » de Rachmaninov. C'est tiré de son album « Triptyque »,« Lux éternel »,« Lumière éternelle », si vous voulez. Et l'album vient de « Eterna ». Il y a trois albums dans. C'est un triptyque. Alors, M. de Koninck, qui était un professeur de philosophie qui a enseigné à l'Université Laval pendant des décennies, qui est décédé cette semaine, Thomas de Koninck, à l'âge de 91 ans. Et moi, je l'ai connu un peu parce qu'il a participé à certains événements du groupe de Saint-Psy volontaire à l'époque, il était venu nous donner une conférence sur la beauté, qui était magnifique, c'était un grand érudit. Monsieur de Coninck aussi, il y avait une légende autour de lui. Il était, on disait que c'était le petit prince de... Lui, il disait que c'était exagéré un peu, mais c'est que son père, Thomas de Coninck, Charles de Coninck, il demeurait à l'époque là, dans le Vieux-Québec, était un ami personnel d'Antoine de Saint-Exupéry. Et M. Saint-Exupéry, pendant la guerre, s'était exilé là, pendant quelques temps à New York. Et il avait été invité par M. de Coninck pour venir donner une conférence au Palais Montcalm. Et il avait demeuré chez la famille de Coninck. Puis, apparemment, Saint-Exupéry était plus intéressé par les enfants de M. de Coninck que par des discussions là, avec... les adultes, comme on dit. Et il a passé sa soirée à jouer avec les enfants de Coninck, qui étaient, à l'époque, c'est une grosse famille, la famille de Coninck, je pense qu'il était 10 enfants, mais à l'époque, il était seulement quatre, là. C'était dans les années 40, et Thomas de Coninck, qui était l'aîné, a passé la soirée avec M. Saint-Exupéry. Et à l'époque, quand il était à Québec, il était en train de rédiger le Petit Prince. Et il prenait des... peut-être dans sa tête, là, il s'inspirait un peu des enfants qu'il voyait. Et on peut penser que, entre autres, les enfants de Coninck ont donné un peu d'inspiration pour l'écriture du Petit Prince. Mais comme M. de Coninck disait, c'était pas lui le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry. Sauf que ce qui est un peu surprenant, c'est quand on regarde les dessins du Petit Prince, le Petit Prince ressemble étrangement à M. de Coninck quand il était petit. Donc, d'où la légende là, qui s'est répandu sur que M. de Coninck était le Petit Prince, qui est, bon, en tout cas, c'est quand même une belle histoire, puis il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais il ne faut pas trop exagérer non plus, ce n'est pas le Petit Prince, M. de Coninck. Alors, voilà pour l'anecdote. Pour revenir à M. de Coninck, bien, entre autres, c'était son maître à penser, on pourrait dire, c'était le philosophe Socrate. Et Socrate, c'est comme une icône de la philosophie. La philosophie, on pourrait dire, moderne, a commencé avec Socrate. Puis, on le voit dans ses titres. Il a écrit un livre qui s'appelle « La nouvelle ignorance ou le problème de la culture ». Ben, l'ignorance, c'est ce que Socrate disait, que nous sommes tous ignorants. Puis le mieux qu'on peut faire, c'est de réduire notre ignorance, mais il faut être conscient de notre propre ignorance. Et il commence son livre, justement, « La nouvelle ignorance », M. de Coninck, en disant « Il existe en réalité deux formes d'ignorance qu'on pourrait qualifier de nouvelles, mais qui sont diamétralement opposées. La première ouvre et libère, la seconde emprisonne et tue. La première, qu'il faut célébrer, se traduit par de nouvelles interrogations suscitées par de nouvelles découvertes. En fait, on pourrait dire que l'ignorance est reliée un peu à l'étonnement. Et l'étonnement, c'est le début de la philosophie. Alors, M. de Coninck parlait de l'importance de cultiver l'étonnement, l'émerveillement. C'est le questionnement, c'est de là que part la philosophie. Elle est le moteur de toutes les avancées du savoir. La seconde fait, au contraire, vivre dans l'illusion qu'on sait alors qu'on ne sait pas et s'apparente à ce que Platon appelait la double ignorance. Dénoncée et combattue jadis sous sa forme primitive par Socrate, elle est revenue aujourd'hui en force, à l'instar de ses anciennes maladies infectieuses, dont les bactéries parviennent à s'adapter et à résister aux remèdes les plus puissants et dont on constate aujourd'hui les grands retours. C'est cette dernière qui est notre sujet et que nous appelons, pour faire court, la nouvelle ignorance. Mais si elle a le caractère d'une résurgence, qu'a-t-elle de proprement parlé de nouveau? Déjà, on reconnaissait en la double ignorance la plus grave et la plus endémique d'entre les ignorances, la plus farouchement résistante, la cause de tout ce qui fait de mal, se fait de mal. Et les sujets en jeu sont importants. Alors, Socrate disait que toutes les choses mauvaises qui sont faites par les hommes, c'est tous liés à l'ignorance. Si l'homme n'était pas ignorant, il ne ferait pas de choses mauvaises. Et les sujets en jeu sont importants, plus elle est manifeste et honteuse. Car non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais tout en les ignorant, tu crois les savoir, disait Socrate à Alcibiade. Aussi, tu cohabites, mon pauvre ami, avec la pire des ignorances. C'est ton propre discours qui t'accuse et toi-même. Voilà pourquoi tu te jettes dans la politique avant d'avoir été exécuté. Elle est la cause de toutes les erreurs auxquelles notre pensée à tous est sujette, car elle définit l'amatia, la bêtise, l'apaideusia, l'inculture, de ces prisonniers qui, enchaînés depuis longtemps au fond d'une caverne, y sont devenus experts en nombre et contents de l'être à force de ne rien connaître. C'est la fameuse allégorie de la caverne de Platon qui dit que les humains, dans le fond, sont victimes d'illusions, qui sont dans l'ignorance, puis il faut en être conscient. Ce qui est nouveau, ce sont les formes inédites, plus redoutables qu'elle revêt aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est l'esprit d'abstraction dont notre puissance technicienne décuple désormais l'influence. Ce qui est nouveau, c'est l'autodestruction universalisée de la culture qui a pour corollaire la violence. Car l'alternative logos violence est inéluctable. Il n'a pas d'autre voie que celle du bien ou du bien de la culture ou bien de la violence. Les Grecs en ont fait la démonstration. L'expérience millénaire le corrobore. Dans la mesure où le logos fait défaut, la violence croît. Le vide, l'ennui, l'indifférence à la vie, le fanatisme qui entraîne la destruction de la culture ont des conséquences incalculables. Le paradigme a été fourni par Auschwitz. Le Kosovo et les autres drames moins médiatisés, mais tout aussi atroces de la fin du 20e siècle, seront à coup sûr suivis d'autres calamités humaines du même ordre, aussi sûrement que les tueries, les tortures et les génocides du Rwanda et de la Bosnie ont suivi ceux du Cambodge et les goulags soviétiques et chinois. Même si les idéologies meurtrières ou les prétextes couvrant la haine peuvent parfois différer du tout au tout dans leur formulation, la cause profonde de la culture de la mort dans laquelle nous sommes est l'ignorance de l'humain et de sa dignité. Tant qu'on n'en aura pas pris vivement conscience, les atrocités et les catastrophes humaines iront croissant, tant que la cause durera, que la nouvelle ignorance, en somme, ira s'aggravant, ses effets se reproduiront et s'intensifieront. Alors, c'est un petit extrait du livre « La nouvelle ignorance », des textes fabuleux de Thomas d'Aquin, ça avait été publié en 2000. Au retour, on va prendre une petite pause musicale. Au retour, je vais vous lire un texte plus récent sur un manifeste qui s'appelle « Beauté oblige, écologie et dignité ». Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, je vous lis le petit manifeste de M. Thomas d'Aquin. Alors, c'était Jean-Michel Blais, son album Sérénade. Et la pièce, c'était La Chute. C'est de l'improvisation au piano. C'est très beau. Alors, c'est ça. C'est un manifeste que M. De Coninck a publié suite à un colloque qui avait été organisé par la Faculté de philosophie de l'Université Laval, de la responsabilité de protéger écologie et dignité. Ça aussi, je vais revenir la semaine prochaine. Là. Il y a eu un livre publié là, suite à ce colloque-là. Puis aussi, un manifeste qui a été publié en 2018. Alors, je vais lire un petit extrait pour terminer l'émission. La crise écologique est la nouvelle ignorance. Alors, on parle encore de nouvelle ignorance. Sommes-nous suffisamment conscients de la détérioration sans précédent de l'état de notre maison commune, fragilisée par les perturbations communes, les perturbations climatiques et de la menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaine et la planète, dont les conséquences entraînent l'insécurité, les mouvements de réfugiés, des pertes et des préjudices définitifs et qui constituent un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière. Ce qui est gravissime, c'est le pillage des ressources vivantes, la perte de la biodiversité, l'asservissement excessif des espaces naturels. Il est désormais acquis que l'être humain est la principale cause du réchauffement planétaire depuis la révolution industrielle. À cela s'ajoute le fait que l'humanité n'a jamais autant pollué que depuis le début du 21e siècle, comme l'a établi le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et comme s'en alarme, plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signataires d'une mise en garde des scientifiques du monde entier à l'humanité, publiée en 2017 dans la revue Bioscience. Il n'est pas inutile de relever que leur avertissement fait écho à une mise en garde analogue rendue publique 25 ans plus tôt, en 1992, qui incluait la signature d'une majorité des récipiendaires du prix Nobel alors vivant. En tout cas, on va revenir là-dessus. Comme je vous disais, M. Thomas de Coninck, philosophe que j'apprécie bien, est décédé cette semaine. Alors, je vais faire quelques émissions là, en parlant de M. De Coninck dans les semaines qui viennent. Alors, on termine l'émission comme ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Trois, Radio Urbaine. Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission d'un autre.